Nous sommes toujours dans l'introduction, donc, mais je voulais faire un résumé de ce que nous avons regardé jusqu'à maintenant. J'ai les deux autres en avant de moi et je vais tout simplement faire un résumé. Mais avant de faire cela, on devrait prier et je demanderai à Alexis, s'il te plaît, de nous conduire.
Père, je te rends grâce encore pour cette journée. Et Seigneur, je voulais te dire aussi que c'est vrai, Seigneur, nous sommes vraiment fragiles. Et nous sommes vraiment peu de choses. Et je te rends grâce parce que, Seigneur, malgré notre fragilité, tu es là pour prendre soin de nous. C'est toi qui nous renouvelles nos forces et je te remercie pour cela. C'est vraiment une grâce de te connaître, de savoir que tu es avec nous, que tu nous entoures par derrière et par devant, que nous ne sommes pas abandonnés à notre triste sort. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus, et nous avons cette belle espérance. Seigneur, tu nous mets de la joie dans nos cœurs et je te remercie. Je te remercie encore pour cette soirée où nous allons encore plonger les regards dans ta parole. Et Seigneur, je te prie encore de nous instruire, d'ouvrir encore nos yeux sur la profondeur de tes saintes écritures, que nous puissions les mettre sur nos cœurs, dans nos pensées, afin de grandir et de croître, Seigneur, dans ta connaissance et ta sagesse. Père, je te prie aussi pour ceux qui ne sont pas là, je te prie pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ont des doutes, des difficultés. Je te prie vraiment, Seigneur, aussi de renouveler leur force. Je prie vraiment, Seigneur, que tu les interpelles et que tu leur fasses du bien et qu'ils prennent conscience, Seigneur, de leur fragilité et de s'appuyer surtout sur toi, Père. Parce qu'on n'est jamais déçu, Seigneur, avec toi à nos côtés. Alors merci pour toutes choses, Seigneur, et encore ouvre nos yeux et fais-nous du bien. Amen.
Amen. Amen. Le projecteur fonctionne comme il faut. J'ai eu un peu de difficulté pour dimanche matin, mais j'ai commandé un adaptateur qui fonctionne très bien. Et, nous allons pouvoir commencer à s'en servir pour le mardi aussi. Peut-être que je continuerai pas à faire des photocopies comme ça, alors peut-être qu'on le fera dans un autre format, en tout cas on verra. Nous avons commencé nos études en regardant ce que c'est que la doctrine. Ce sont des études doctrinales, alors qu'est-ce que c'est qu'une doctrine? Nous avons abordé ce sujet-là. La doctrine, c'est quoi? C'est vraiment l'enseignement. C'est l'enseignement, n'est-ce pas, des Écritures. Et, nous avons répondu à la question « Pourquoi étudier la doctrine ?» Et on a vu plusieurs, nous avons vu plusieurs points. La dernière fois, nous avons abordé comment étudier la doctrine. Et je veux juste faire un résumé de ce que nous avions regardé, si je peux retrouver mes feuilles. Je pensais que j'en avais deux. Les points que nous avons regardés la dernière fois, comment étudier les doctrines? Premièrement, nous devons étudier la doctrine dans un esprit de prière. Deuxièmement, nous devons étudier la doctrine avec humilité. Nous avons mis beaucoup d'accent sur ce point. Nous devons étudier la doctrine à l'aide de notre raison. Nous avons abordé ces trois points. Ce soir, nous continuons avec un point très important et qui... J'ai découvert qu'il fallait que je fasse attention parce qu'il serait facile, avec ce premier point que nous allons regarder ce soir, il serait facile d'aller par là ou par là. Ça touche la doctrine de l'Église locale. les serviteurs dans l'église locale, l'organisation, si vous voulez, jusqu'à un certain point de l'église locale. Mais nous allons essayer de rester sur notre point principal. Comment étudier la doctrine? Et donc le quatrième point, qui est notre premier point de ce soir, c'est que nous devons étudier la doctrine avec l'aide des autres. Avec l'aide des autres. Nous avons chacun de nous le Saint-Esprit en nous. Ça, nous l'avons déjà regardé. Je pense dans la première ou deuxième étude, je crois. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui illumine nos cœurs, qui fait application de ce que nous sommes en train de lire à nos cœurs, et c'est lui qui nous aide à comprendre ce que nous lisons, ce que nous entendons dans la parole. Le Saint-Esprit est un enseignant selon ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Mais nous avons besoin aussi d'autres chrétiens. Et c'est un point que je pense souvent aujourd'hui. Je discutais avec quelqu'un. Il faut que je fasse attention à ce que j'ai dit. J'ai discuté avec quelqu'un justement qui me parlait de que dans son église, il y a des gens qui ont la notion qu'ils n'ont pas besoin d'enseignants. Pas besoin de pasteur qui doit étudier ou qui, parce qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ont la Bible, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Mais c'est contre la parole de Dieu, ça. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et moi, je pense égoïste. C'est égoïste. Nous devons étudier la doctrine avec l'aide des autres. Regardons quelques points. Okay? Premièrement, il y a le fait que Dieu établit des enseignants dans l'Église ou dans les Églises. Lorsqu'on parle de l'Église, on parle des Églises. Et c'est Dieu qui établit des enseignants dans l'Église. Éphésiens 4, nous allons prendre le temps de regarder chacun de ces versets, de ces passages. Et ce soir, j'en ai mis moins sur la feuille hein, pour nous forcer à tourner dans nos Bibles et lire dans nos Bibles. Éphésiens 4, 11 à 15. Éphésiens 4, 11 à 15. Il y a en Corinthiens 12 aussi que je n'ai pas mis. Je vois que je ne l'ai pas mis, mais qui est similaire. Regardons Éphésiens 4, 11 à 15. Qui veut lire?
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
Alors, on est dans une section où, comme dans 1 Corinthiens 12, les questions. Dans 1 Corinthiens 12, c'est plus une question des dons que Dieu donne à l'Église. Ici, c'est plus comme des postes. L'accent est plus sur ces hommes qui possèdent ces dons. Le point commun, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur le verset, donc là, on ne va pas s'écarter là, mais le point commun, c'est que chacun de ces catégories-là, de ces dons, si vous voulez, touche à la communication de la parole de Dieu et à l'enseignement de la parole, surtout le dernier. Le dernier, c'est pasteur et docteur. Et la plupart des commentateurs croient qu'il s'agit là d'un seul et même poste. parce que dans le grec, c'est différent. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans le grec, ça ne dit pas les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. C'est docteur et pasteur est ensemble. Donc, il est évident que Dieu donne donc des gens, des hommes à l'Église pour enseigner, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses. Là. On pourrait aller dans les questions comme qu'est-ce que c'est qu'un apôtre, qu'est-ce que c'est qu'un... On ne prendra pas le temps de faire cela ce soir, mais nous sommes d'accord que ce qui est clair dans le passage, c'est que Dieu donne ses dons à son Église pour le perfectionnement des saints. Et ça implique nécessairement hein, l'enseignement de la vérité, la communication de la vérité. Et si on allait dans 1 Timothée, là vous allez voir un lien direct avec ce que nous voyons dans Éphésiens, où il dit au moins avec pasteur et docteur, parce que dans 1 Timothée, nous avons les qualifications qui sont énumérées. Les qualifications pour deux postes dans l'église locale, lesquelles, vous savez, hein? Quels sont les deux postes dont il est question dans 1 Timothée 3 et aussi dans Tite? Dans le passage dans Tite. Si quelqu'un veut lire 1 Timothée et quelqu'un d'autre veut prendre... veut prendre Tite 1, 5 à 9. Comment, Nadia?
Les diacres.
Oui, les diacres et?
Je pense les anciens.
Les anciens ou les...
Les évêques.
Le mot, c'est évêque. Mais le mot évêque... pardon? Ah, les mots évêque, pasteur et ancien désignent un seul et même poste. Et ça devient très clair lorsque nous lisons Actes chapitre 20. Parce que dans Actes chapitre 20, il est très clair que c'est le même. Il y a des choses au cours de l'histoire, assez tôt dans l'histoire de l'Église, on voit assez tôt, vers l'an 200, déjà, il y a dans certaines églises une différence entre l'évêque et les anciens. Mais si on se limite à ce qui est révélé dans les Écritures, évêque, ancien, pasteur, c'est le seul et même, un seul et même poste. Et on ira en détail là-dessus lorsque nous aborderons le sujet de l'Église locale. Vous voyez, c'est difficile pour moi de ne pas m'écarter. Mais 1 Timothée 3, 1 à 7, qui veut lire?
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur que, d'enfler d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux de dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable.
Juste un petit commentaire. Est-ce que vous vous souvenez de lorsque nous regardions... au début de cette section de l'étude sur comment étudier la doctrine, vous vous souvenez du lien que nous avons fait entre une vie sainte et la saine doctrine. Vous vous en souvenez? Nous avons un passage qui est la preuve que c'est la volonté de Dieu, que les deux vont ensemble. On a les qualifications pour pasteur ancien, pasteur docteur, si vous voulez, dans l'Église. Et c'est très clair hein, qu'il faut qu'il ait une vie qui conforme à la parole de Dieu. Mais ça dit qu'il faut qu'il soit propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit propre à l'enseignement. Une des responsabilités de l'ancien dans une église, c'est enseigner le troupeau. Il doit paître le troupeau, il doit surveiller le troupeau. Il y a beaucoup d'autres responsabilités qu'il peut avoir, mais nous sommes en train de voir que si nous allons étudier la doctrine biblique comme il faut, que nous devons étudier avec l'aide des autres. Et Dieu a mis des personnes dans les églises pour nous aider dans le domaine. Pas juste des anciens, je n'ai pas terminé, hein, mais il est important qu'on voit ce côté de la médaille aussi. Tite, 1er chapitre, verset 5 à 9. Qui veut lire? Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Puis il lui dit quoi faire pour régler les problèmes et ce qui reste à régler en Crète. Puis il, verset 6, il donne les qualifications pour ces anciens-là. S'il se trouve quelqu'un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme l'économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon quoi? Selon quoi?
La saine doctrine.
Vous êtes tous d'accord? Mm. Selon la saine doctrine. Et de réfuter les contradicteurs. Évident. C'est évident hein, que Dieu met des anciens dans l'Église pour enseigner. Et donc, deux points qui sont en lien avec ce que nous sommes en train de voir. Premièrement, ils sont reconnus. Et ça, je pense que c'est important à voir. Ces hommes que Dieu met dans l'Église pour aussi diriger l'Église, mais pour enseigner, sont reconnus et approuvés par l'Église entière. Ça, c'est important. C'est pour cela qu'ils donnent ces qualifications-là. Il donne les qualifications dans 1 Timothée 3 et dans Tite pour permettre à tous les chrétiens de savoir quelles sont ces qualifications pour approuver ou désapprouver celui qui aspire, comme il dit dans 1 Timothée 3, à la charge d'évêque. Oui. Si ça fonctionne comme ça devrait fonctionner, ce n'est pas monsieur n'importe qui va dire oh, ben, Dieu m'a appelé à prêcher, à enseigner, donc vous devez m'écouter. Ben, peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il remplit les qualifications? Est-ce qu'il remplit les qualifications qui sont données à tous les frères et sœurs de l'Église et à regarder et à examiner, oui ou non. Est-ce que l'Église est d'accord avec son appel? Oui. C'est important à voir et à comprendre, mais de savoir qu'il existe des enseignants dans les Églises qui sont appelés de Dieu et reconnus, approuvés par les Églises. Et ils sont là pour nous aider. Hébreux 13, verset 7, j'ai mis le verset dans la feuille, c'est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Donc, c'est ce qu'ils enseignent, mais il y a aussi leur vie. Et les deux vont ensemble. Et du fait qu'ils viennent des églises locales et qu'ils sont reconnus par les églises locales, vous voyez, donne une certaine autorité parce que ça nous permet en tant que brebis hein, de voir leur témoignage. Est-ce qu'ils remplissent les qualifications, oui ou non? Et je veux juste mentionner que c'est un détail, mais un détail très important. Parce que lorsque on ouvre, par exemple, la télévision et on le met sur le canal religieux et il y a un prédicateur qui passe et qui sonne bien et qui a un beau style et qui est vraiment, comment je peux dire, toute une personnalité.
Qui fait tomber les gens.
Comment?
Qui fait tomber les gens.
Oui, entre autres phénomènes, des fois, parfois. Mais on serait peut-être tenté de l'écouter, mais comment savoir si cet homme-là ou parfois cette femme-là s'il vit selon les qualifications qui sont énumérées dans la parole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dangereux. Et c'est un autre phénomène par rapport à Internet qui est dangereux. Une chose que j'ai constatée il y a plusieurs années, lorsque c'était les blogs aux États-Unis, c'était la folie, hein? Les blogs chrétiens. Et monsieur, madame, n'importe qui pouvait faire un blog et bloguer sur n'importe quel sujet et avoir des milliers de gens qui les suivaient, les écoutaient, sans que personne pose des questions sur ces qualifications selon 1 Timothée 3 et Tite, le premier chapitre. Vous me suivez? Ça m'a frappé à l'époque. Et je me souviens d'avoir commencé à dire à quelques-uns des jeunes, « Mais est-ce que vous... » Oui, ça a l'air intéressant et c'est peut-être bon, mais il assiste à quelle église? Il est reconnu par quelle église locale? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un élément très important dont il faut tenir compte lorsque on aborde cet élément très important. Nous devons étudier la doctrine avec l'aide des autres, mais il faut bien choisir les autres qui nous aident. C'est ça que je veux dire. Il faut avoir un certain discernement. Et donc ils sont... en ce qui concerne les anciens pasteurs pasteurs docteurs, évêques dans les églises, on a les qualifications. Mais il y a aussi, puis dans le deuxième point, si on veut devenir, on veut élargir cela un petit peu plus, c'est inclure des gens dans les églises qui ont le don pour enseigner, mais qui ne sont pas nécessairement anciens ou pasteurs dans les églises, parce qu'il y en a. Il y en a. Hein. On voit qu'ils prennent. Et l'Assemblée aussi, très au sérieux, leur responsabilité. Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés, nous les enseignants, c'est ce qu'il veut dire, nous serons jugés plus sévèrement. C'est sérieux, c'est sérieux. Hein. Vous voyez, c'est sérieux. Qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et c'est un peu particulier parce qu'on regarde cela. Normalement, on aurait tendance à nous dire maintenant, on a besoin de plus d'enseignants. Et oui, nous voulons avoir plus d'enseignants. Nous avons besoin de plus d'enseignants dans nos églises. Hein, parce que, je veux dire, il n'y a pas d'église qui a tous les enseignants dont ils ont besoin. Peut-être des églises qui sont situées, je connais quelques-unes qui sont situées dans des villes où il y a des instituts bibliques ou des universités chrétiennes, et ils ont plein de gradués et de diplômés et de gens qualifiés pour enseigner dans leurs églises, peut-être, mais la plupart des églises n'ont pas trop d'enseignants, n'est-ce pas? On est béni ici en passant. On est béni dans cette église. Amen. Nous sommes bénis dans cette église. D'avoir le nombre d'enseignants que nous avons. Et merci Seigneur. Mais vous voyez le sérieux, hein, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Bon.
Je crois aussi que
Enfin, une question, une intervention.
Oui, en fait, oui. C'est vrai, des fois, on ne connaît pas la vie de ces gens-là.
Oui.
Quand on connaît la doctrine aussi, c'est qu'est-ce qu'ils enseignent, c'est vrai ou pas, et Dieu honore sa parole.
Oui, ça, c'est un autre aspect qu'on voit dans la parole. Dieu honore sa parole. Il peut honorer sa parole malgré... Ouais, la vie de celui qui... Mais ce n'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal et là où vraiment Dieu travaille, c'est lorsque la vie reflète la saine doctrine. Mais aussi un autre aspect, hein, Lucie, que je n'ai pas mentionné, c'est que même si nous ne connaissons pas, ou si quelqu'un dans notre Église ne connaît pas, les enseignants, qu'ils soient à la télévision ou sur Internet, parce qu'on est tous d'accord qu'il y a de bons enseignants à la télévision, il y a de bons enseignants sur Internet. Nous sommes tous d'accord. J'espère que je n'ai pas donné une mauvaise impression. Il y en a. Mais c'est que même si nous ne les connaissons pas, ben, il y a des églises... en qui nous avons confiance, qui les connaissent. Je veux dire, mais il faudrait qu'il y ait un lien quelque part avec quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait si ça, ces enseignants-là, leur vie cadre avec ce que nous voyons dans la parole. Mais c'est ça. Alors, où en étais-je?
Tout à l'heure, tu as bien dit, hein, si j'ai bien compris, oui. Évêque et ancien, c'est le même mot?
Oui. Ben, c'est pas le même mot. C'est le même poste.
Même poste. Et diacre, pas non.
Non.
Non,
pas du tout.
C'était évêque et ancien. Le même poste.
Évêque, ancien et pasteur. Le passage dans Éphésiens où on voit le mot pasteur, il y a ce passage. Il y a aussi le passage dans 1 Pierre, ou dans Acte 20, je veux dire, où on a le verbe « paître qui vient du mot « pasteur ». Donc l'idée est là, dans Acte 20. Mais non, c'est ça, lorsqu'on parle pasteur, ancien, évêque, c'est la même chose dans la parole. Diacre, c'est autre chose. C'est le mot « diakonos » qui veut dire « serviteur », littéralement « serviteur ». Mais c'est un poste important parce qu'il donne les qualifications pour, hein. Dans Timothée et dans Tite.
Oui, la suite.
Et on reviendra là-dessus lorsqu'on abordera le sujet de l'Église locale. Alors, nous devons permettre à ceux qui ont un don d'enseignement de nous aider à comprendre l'Écriture. Et je voulais qu'on regarde au moins un ou deux passages où on a cette notion, où on voit... on le voit d'une manière claire dans la parole, l'importance d'écouter les enseignants que Dieu a mis en place. Et c'est pour ça que j'ai mis 2 Timothée, j'ai essayé de mettre des catégories, protéger l'Évangile et encourager ceux qui enseignent. Mais regardons ces deux passages, 2 Timothée 4, 3 à 4 et 1 Timothée 5, 17. Mais c'est important qu'on le voit parce qu'il y a un aspect qui entre en ligne de compte. Souvent, on peut trouver que ceux qui sont qualifiés selon 1 Timothée 3 et Tite, et ceux qui prennent au sérieux leur enseignement, comme on a vu dans Jacques, même s'ils ne sont pas anciens ou pasteurs, il y a toutes sortes de styles. Et même dans notre Église, hein, dans notre Église, parmi les enseignants, chacun a une personnalité différente, un style un peu différent. Parfois, surtout aujourd'hui, on a accès à Internet et on peut aller directement sur Internet trouver le prédicateur, notre prédicateur préféré. Et l'écouter, puis écouter juste lui, parce qu'il est notre préféré, parce qu'on aime sa voix, on aime son allure, on aime... je veux pas me moquer, mais je peux pas m'en empêcher un peu, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et parfois, parce que dans l'église locale, il y a peut-être des styles qu'on trouve un peu plus difficiles, et pour écouter et réfléchir, il y a des enseignants avec qui, pour les écouter, il faut faire un meilleur effort que pour d'autres, et on serait tenté de dire, « Oh ben non, pff, bon, oh, je, lui je l'aime pas. » Il faut pas, on peut pas, on n'a pas le droit. Parce que si les enseignants que Dieu met dans l'Église sont qualifiés selon la parole de Dieu, nous avons besoin de ces hommes-là. Et nous devons les écouter. Nous devons faire l'effort nécessaire pour les écouter. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est très important. Parce que c'est selon l'enseignement qu'on voit dans ces passages. 2 Timothée 4, 3 à 4. Qui veut lire 2 Timothée 3 à 4? De Timothée 2, 3 et 4.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables.
Vous voyez la tentation de se donner, comme il dit, une foule, comment il est dit?
Une foule de docteurs.
Une foule de docteurs selon quoi?
Leur propre désir.
Cela veut dire que peut-être qu'il va y avoir des enseignants qui, parfois, ce qu'on a à entendre va à l'encontre de nos propres désirs. Vous me suivez? Vous me suivez? Mais on en a besoin. On en a besoin. Sinon, il y a toujours ce danger de tomber dans la fausse doctrine, n'est-ce pas? Le passage est très clair. Je lisais dans mon culte personnel, j'ai lu Galates, le premier chapitre ce matin, où il parle d'un autre évangile. C'est incroyable ce qu'il dit. Et parfois on dit, mais non, ça a dû être autre chose au début de l'Église parce qu'eux avaient accès aux apôtres. Ils pouvaient écouter Paul en personne. Non. Même ceux qui pouvaient écouter Paul en personne étaient tentés de suivre un autre évangile. Hein. Galates, premier chapitre. Tu es là, lis-le. Vas-y.
Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
Oui. Mais avant ça, il a dit, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Paul était étonné qu'il soit passé si vite, si promptement, il dit, à un autre évangile. Donc le danger est toujours là et nous devons vraiment profiter au maximum des bénédictions que Dieu nous a données pour continuer à grandir et apprendre la saine doctrine pour rester dans la vérité. 1 Timothée 5, 17. Timothée 5, 17. Ça dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ce que cela ne dit pas, hein. Surtout ceux qui ont une belle personnalité et un beau style. C'est pas ce que ça dit. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, juste quelques points qu'il faut absolument voir et comprendre si nous voulons continuer à grandir et rester fidèles et dans la saine doctrine. Je continue. C. Nous devons avoir recours à des ouvrages de théologie systématique et à d'autres livres écrits par des enseignants que Dieu a donnés à l'Église au cours de son histoire. Autrement dit, si nous devons étudier la doctrine avec l'aide des autres, ça comprend aussi des livres. Et on ne doit pas avoir peur de bons livres qui sont écrits par des gens, des hommes, mais des femmes qui étaient qualifiées pour enseigner sur différents sujets que Dieu a utilisés, qui ont été reconnus par leur Église. Il ne faut pas... la lecture aujourd'hui, c'est pas quelque chose que les gens aiment faire, hein? Mais il ne faut pas avoir peur des livres. Il faut avoir accès aux bons livres. Mais il y a 1 Timothée, pas 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 4 et le verset 13. 2 Timothée 4 verset 13. Paul, il est en prison. Et il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et quoi? Et les livres. Et j'ai mis entre parenthèses rouleau, parce que c'est ce que le mot biblios veut dire. Surtout les parchemins. Et entre parenthèses, ce que c'est, c'était fait de peau tannée. Donc, avec plus de valeur. Et on croit que les parchemins étaient probablement les écritures. Les rouleaux, peut-être des écritures aussi, mais il y a de bonnes possibilités que dans les livres et les parchemins, il y avait aussi des commentaires bibliques ou des livres écrits par des gens qui connaissaient l'Ancien Testament et qui avaient écrit par rapport à, aux applications et pour mieux comprendre les écrits de l'Ancien Testament, parce qu'on comprend bien qu'il parle de l'Ancien Testament hein, à l'époque. Donc pour Paul, les livres étaient importants et nous avons besoin de livres aussi. Il ne faut pas avoir peur de bons livres chrétiens pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Dernier point, et je vois bien qu'on ne pourra pas terminer, mais peut-être. Dernier point, nous devons avoir des discussions avec d'autres chrétiens sur les sujets que nous étudions. Donc, on a parlé des dirigeants, des anciens dans les églises, des enseignants dans les églises, mais il ne faut pas oublier que chaque enfant de Dieu a le, comme j'ai déjà dit, a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Hein. Et avec la présence de l'Esprit de Dieu en chacun de nous, nous avons non seulement la possibilité, mais nous avons la responsabilité de nous exhorter les uns les autres, de nous édifier les uns les autres. Romains 15, 14, 1 Thessaloniciens 5, 11, Hébreux 10, 24 et 25, Romains 14, 19, 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Il vient tout juste dans Romains 11 de parler du peuple juif et c'est maintenant, le salut est maintenant ouvert aux non-juifs, mais que tout Israël sera sauvé. Il dit, il n'a pas terminé avec les juifs. Donc il va en détail sur tout ce sujet-là. Qui veut lire? Mais après cet exposé doctrinal, il dit quoi? Romains 11, 33 à 36. Qui veut nous lire?
Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu? Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Mmh. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui va donner le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit
Amen.
Amen. Amen. Donc la prochaine fois, on abordera la doctrine de la Bible, la parole de Dieu. Donc, nous allons maintenant passer à...